Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Mathieu, Patrick. Salut à tous les trois.
Bonsoir, Elisabeth.
Émission en partie consacrée aux leçons de ce premier tour des législatives. En gros, ça passe ou ça casse, résume à sa une le Télégramme ce matin. Il reste une semaine pour arracher la majorité absolue, annonce le Parisien aujourd'hui en France. Une majorité absolue menacée, alerte le Monde. Elle sera plutôt étriquée, prévient le Figaro. C'est le thème de votre édito, Patrick, ce soir.
Oui, on va tirer quelques leçons de ce premier tour, en commençant par ceux qui n'ont pas voté, qui sont la majorité en France.
Majorité écrasante, plus de 50% des Français se sont abstenus, les jeunes en particulier. On en parle avec le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal, qui est ce soir notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Je vais vous parler du prince Charles qui s'immisce dans la politique de Boris Johnson. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça ne se fait pas. La famille royale ne se mêle pas de politique. Il est question des réfugiés que Boris Johnson veut envoyer au Rwanda. On en avait parlé dans le 5 sur 5 déjà. On va voir si ça choque les Britanniques.
Le prince Charles a rappelé alors dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Pierre, votre œil.
À propos de Britanniques, les Stones poursuivent leur tournée des 60 ans. Et jeudi sort un bouquin magnifique, un bouquin de photos signé Gaëlle Jesquière. Elle est photographe depuis 25 ans, elle suit les Stones. Et il y a vraiment des photos que j'avais jamais vues, aussi bien sur scène qu'en coulisses. Elle a vraiment un talent, un œil extraordinaire. On regardera son bouquin tout à l'heure.
Je marche donc, je suis rien à voir avec la formation politique d'Emmanuel Macron. Non, c'est la philosophie de deux de nos invités après 20h, Roger Paul-Droit, le philosophe, qui écrit un livre sur les bienfaits de la marche. Il est accompagné ce soir d'Hervé Pochon, qui vient de boucler son premier pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ancien journaliste de France Inter. Leurs expériences à tous les deux sont passionnantes. Ils sont nos invités juste après 20h. Et puis on accueillera une famille de cinéma au sens propre. Thomas Ngijol, son épouse Carole Rocher et sa fille Barbara Biancardini. À Troyes, ils ont réalisé et écrit le film Fraté qui sort mercredi dans les salles. Voilà pour nos invités du dîner. Dîner préparé ce soir par une chef, Justine Piluzo, chef du restaurant Les Petites Mains. C'est au Musée de la Mode, dans le 16e arrondissement de Paris. Bonsoir et bienvenue aux commandes de la cuisine de C'est à vous.
Merci, bonsoir.
Au menu ce soir.
Au menu, risotto crémeux avec beaucoup de légumes printaniers et bien sûr le coulis de betterave.
Merci beaucoup. À tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Le premier tour des législatives hier a vraiment mis fin à ce qui n'a pas été un état de grâce post-présidentiel, une journée particulière, Mathieu.
Oui, nous connaissons désormais le résultat du scrutin qui confirme les sondages et qui annonce le second tour, un face-à-face entre la majorité présidentielle et l'Union de la gauche.
Il est 20h. Regardez à quoi pourrait ressembler cet hémicycle au soir du second tour, selon nos estimations.
Mais reprenons quelques heures plus tôt. Si nous voyons là des Français profitant de leur dimanche, c'est que le vrai gagnant, le vrai parti majoritaire, c'est celui de l'abstention.
Ah oui, c'est vrai qu'il fallait aller voter. Malheureusement, j'ai pas voté.
J'ai perdu un peu espoir en la politique.
J'ai plus confiance en nos politiciens.
Il y a aucun parti qui me correspond.
Le choix me convenait pas.
On en a marre, en fait, je pense que tout le monde en a marre et les gens se disent de toute façon, même si on y va, ça va rien changer.
Jour de scrutin, les politiques, eux, sont allés voter, suivis par la télévision quand ils ne postaient pas leurs selfies sur les réseaux sociaux. Alors sur l'abstention, on se renvoie la responsabilité.
Votre assurance vie au premier tour, c'était l'extrême droite, la présence de l'extrême droite. Et là, votre assurance vie, c'est l'abstention.
Les enseignements du scrutin. Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle qui a de fortes chances d'obtenir un groupe à l'Assemblée. Le Rassemblement national revendique le statut de force principale d'opposition.
J'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas.
Vous voulez transformer l'Assemblée nationale en ZAD, en faisant rentrer les défenseurs du burkini, ceux qui veulent désarmer la police.
Pour la première fois devant les Républicains aux législatives, le Rassemblement national aura surtout confirmé son hégémonie à la droite de la droite.
Mélenchon et Macron ne sont que les deux faces d'une même pièce. Macron veut déconstruire l'identité française. Mélenchon veut la détruire.
Et il n'y a pas qu'Éric Zemmour. Pas un candidat du feu de paille Reconquête ne s'est qualifié pour le second tour.
Unissons nos forces pour rebâtir la droite française.
Mais attendez, Rachida Dati, réponse.
Alors vous imaginez Rachida Dati alliée à Éric Zemmour?
Jordan Bardella.
Je pourrais vous répondre pareil, parce que je crois qu'il s'agissait de changer mon prénom aussi.
En tête donc dans la soirée, la NUPS qui devance Ensemble, pas bien grave, à une semaine du second tour, tout le monde est content.
Les résultats ne sont pas de suspicion.
Je pense que les Français ne sont pas des gens extrêmes et qu'ils voteront pour la conscience, le bon sens.
On a le droit à un deuxième tour. Alors c'est pas terminé, c'est le début.
Ah ben c'est magnifique, c'est magnifique. On est coude à coude avec La République En Marche.
Je me sens très heureuse et très contente. C'est l'aboutissement de tout un travail.
Je suis content parce que Macron ne pourra pas mettre en place son programme.
Entrons dans les QG à présent. Ici, celui de la majorité présidentielle. Écran sans son, bureau silencieux qui ressemble plus à une salle de presse qu'à un QG un soir de scrutin. Deux salles, deux ambiances. Ici, du côté de l'Union de la gauche, au moment, il faut bien le dire, de l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon.
Les projections en siège à cette heure n'ont à peu près aucun sens. Sinon, celui de maintenir... une illusion.
La République, ça n'est pas la remise en cause de nos institutions et l'insulte contre nos forces de l'ordre.
La majorité sortante en difficulté, de moins en moins sûre d'obtenir la majorité absolue, mais devant les micros, on reste positif.
Je crois que ce soir, nous sommes la seule force politique en capacité d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale cohérente.
Paris réussi pour le premier tour à gauche, l'Union a payé, insoumis, socialistes et écologistes feront une entrée à l'Assemblée.
Si vous m'aviez dit il y a deux mois qu'on en serait là, je ne vous aurais pas cru, mais pas cru du tout. Et donc maintenant on a déjoué les pronostics, il faut déjouer ces projections, une majorité est possible.
J'ai en face de moi un ministre candidat, en fait, qui porte un programme néolibéral, qui ne peut apporter aucune bonne réponse.
Notre objectif c'est de gagner, c'est pas de faire de la figuration, c'est de gagner, donc on a encore du boulot.
Même si la question reste entière, celle de leur division, de leur divergence et de leur dissidence parfois.
Est-ce que vous,
vous pouvez
me
calmer,
Non, dis pas vous calmer, on est respectueux sur ce plateau.
L'un après l'autre, c'est vrai. Les spectatrices apprécient la justesse de cette remarque.
Dans le camp du président, on compte les ministres en difficulté. Stanislas Guérini, vous l'avez entendu, Amélie de Montchalin ou Clément Beaune, en mauvaise posture à Paris.
J'aurais pu rester dans le confort de mon bureau, je ne l'ai pas souhaité. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler ? Ça comporte une part de risque.
D'anciens ministres sanctionnés par les urnes aussi, Roxana Maracineanu, Emmanuel Wargon par exemple, ou encore Jean-Michel Blanquer, l'emblématique ex-ministre de l'Éducation nationale sorti dès le premier tour et qui pourrait contester le scrutin.
Il y a eu aussi des irrégularités de la part du candidat qui arrive devant moi au deuxième tour. Je regarderai d'ailleurs juridiquement ce qu'on doit penser de cela.
C'était le premier à discuter les résultats hier, mais pas le seul. Côté NUPS, on revient sur les dernières annonces de résultats, les résultats officiels. Ensemble, devance la gauche de 20 000 voix seulement, des insoumis dénoncent une manipulation.
C'est clair qu'il y a maintenant un doute sur ce que fait au juste M. Darmanin avec les résultats. Avant, hier soir, je n'y aurais pas pensé. Tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Comment ça se fait? C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. C'est étrange.
Gabriel Attal, sans parler de manipulation, on peut quand même s'interroger sur le choix d'étiquetage du ministère de l'Intérieur. Choix que même le journal Le Monde considère comme problématique. Le quotidien propose son propre décompte, avec 14 candidats de plus que Place Beauvau comptabilisés avec la NUPS. De quoi placer l'Alliance de gauche légèrement en tête, et ça sème le doute.
Il me semble, c'est ce qu'a rappelé le ministère de l'Intérieur, que les candidats qui ont été comptabilisés comme NUPES sont les candidats qui avaient été investis par la NUPES et qui s'étaient déclarés NUPES en préfecture, ce qui n'était pas le cas dans les Outre-mer. Moi, je vois quand même...
Non, il y a trois candidats de métropole qui posent un sérieux problème.
Oui, oui.
Trois candidats en métropole qui ont été investis par la NUPES et qui ont dit ensuite, dans des interviews, qu'ils ne se reconnaissaient pas exactement dans Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Mais est-ce que ça justifie que le ministère de l'Intérieur leur retire l'étiquette NUPES ?
Ça dépend de la manière dont ils se sont déclarés en préfecture. Je vous donne un exemple de le député Dominique Potier, qui est parfois une référence qui est utilisée dans l'Est. Il a déclaré lui-même dans la presse qu'il n'était pas, qu'il ne se ne connaissait pas dans la NUPS, notamment pour des raisons d'adhésion à l'Union européenne.
Mmh. Écoutez, moi, il a eu de l'investiture.
Ce que je veux dire, c'est qu'on voit à nouveau, avec cette histoire, que la France insoumise a quand même un problème avec la vérité. On l'avait vu avec la vérité scientifique sur les questions du vaccin, sur la question du nucléaire. On le voit avec la vérité économique, quand ils expliquent que ce n'est pas vrai que le chômage baisse en France, alors toutes les entreprises cherchent à recruter. Et on le voit là avec la vérité électorale, comme on l'avait vu en 2017. Mais je veux dire, oui, on voit bien que c'est des discours. Oui, c'est ça. Parce que la réalité, c'est que c'est... Enfin, moi, je trouve ça grave. Pourquoi ? D'abord, parce que je pense que c'est assez insultant vis-à-vis des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui sont quand même chargés de remonter les résultats et qui sont quand même chargés de la bonne tenue de cette élection.
Pas des décisions politiques.
Et ensuite, mais bien sûr que non. Et ensuite, je trouve ça aussi dangereux parce que...
On ne peut pas s'interroger sur ça ?
On parlait dans votre reportage de la question de l'abstention, et notamment de l'abstention des jeunes. Quand vous avez des responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui expliquent, qui font croire que les résultats seraient truqués, comment vous voulez donner envie aux Français, notamment aux jeunes, d'aller voter
peut-être
si vous avez
truqué,
des responsables politiques
mais comptabiliser d'une façon qu'on peut interroger, Gabriel Attal.
Non, il y a une comptabilisation qui est faite en fonction du dépôt des candidatures, de l'étiquetage des candidatures au moment de leur dépôt. Moi, j'ai déposé ma candidature, puisque je suis moi-même candidat, j'ai déposé ma candidature en préfecture, j'ai coché la CAVS ensemble majorité présidentielle, je suis comptabilisé dans ensemble majorité présidentielle. C'est pareil pour les candidats de la NUPES. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher... à retourner les choses dans tous les sens. Et les chiffres, on les connaît, tout est public. Mais je pense qu'encore une fois, c'est dangereux quand on parle de l'abstention. Je ne vois pas comment on explique à des jeunes « Allez voter, c'est important, votre voix est importante et sera prise en compte », si en même temps, on a des responsables politiques qui font croire que les résultats seraient truqués.
Ces leçons du premier tour, on les tire tout de suite avec l'édito de Patrick Cohen. D'abord, notre invité vient de le rappeler, plus de la moitié des Français n'ont pas voté.
Voilà, c'est un gouffre démocratique qui s'agrandit avec un énorme clivage social et surtout générationnel. Rendez-vous compte, l'abstention a touché hier 70% des moins de 35 ans, 70% des 18-34 ans. On a 40 points d'écart avec les seniors, comme si le vote aux élections devenait désormais un truc de vieux. En résumé, pour 25 électeurs inscrits, 3 ont voté pour la majorité présidentielle, 3 pour la NUPES, 2 pour le RN, j'ai arrondi, hein, 1 pour LR, et 13 se sont abstenus. C'est la seule majorité qui s'est dégagée de ce jour d'élection.
Emmanuel Macron s'en sort fragilisé ?
Oui, à peine réélu, déjà affaibli, presque 4 millions de voix de moins qu'au premier tour de la présidentielle. 7 points de perdu pour ses candidats par rapport aux législatives de 2017. L'électorat urbain des grandes villes repartit massivement à gauche, c'est une claque. La stratégie, pas de campagne, pas de débat, pas de programme, pas de vague, s'est retournée contre lui, au risque non pas d'une cohabitation, Jean-Luc Mélenchon, on le sait désormais, ne sera pas Premier ministre, mais de 5 années d'impuissance ou de bataille sans fin au Parlement. Faute de majorité claire et nette à l'Assemblée, avec une opposition nombreuse, remuante et déterminée. Pour espérer une majorité absolue, les macronistes ne peuvent compter que sur un report des voix de candidats LR éliminés au premier tour.
Et la gauche est ressuscitée.
Une percée inimaginable il y a 2 mois. C'est un succès stratégique davantage qu'une grande victoire électorale parce que les 25-26% de la NUPES, c'est ce que faisait la gauche, mise bout à bout il y a 5 ans. Et c'est moins que les 30% des 4 candidats de gauche à la présidentielle. Mais le mode de scrutin majoritaire fait de la division et du bout à bout une machine à perdre et à éliminer dès le premier tour. En initiant cet accord d'union avec ce qu'il appelle la vieille gauche et qu'il rejetait depuis 10 ans, Jean-Luc Mélenchon va refaire de la gauche le premier bloc d'opposition à l'Assemblée avec presque 3 fois plus de députés, dont une centaine d'insoumis. Mélenchon, lui, ne sera ni à Matignon ni au Palais Bourbon. Il a choisi de ne pas se représenter. Son rôle politique à venir reste un point d'interrogation.
Et le RN de Marine Le Pen aura un groupe à l'Assemblée.
Oui, c'est l'image inversée de la NUPES. Une vraie dynamique électorale, mais sans alliance. En refusant la main tendue d'Éric Zemmour, Marine Le Pen a tué politiquement celui qui voulait la remplacer, mais elle s'est sans doute privée d'un paquet de députés supplémentaires. C'est une puissance solitaire, comme on dit souvent pour le RN. En revanche, et sans avoir fait campagne, le RN est la seule force qui progresse en 5 ans, 5 points de plus et 1 200 000 voix par rapport à 2017. Plus de 200 candidats qualifiés pour le second tour, près du double d'il y a 5 ans, et de l'argent dans les caisses d'un parti endetté à plus de 20 millions d'euros. La dotation du RN va grimper à près de 7 millions d'euros annuels.
Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Emmanuel Macron, c'était le 7 mai 2017 au Louvre. 5 ans et 1 mois plus tard, le Rassemblement National est la seule force politique qui progresse et Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari de devenir le principal opposant. C'est quoi ? C'est d'abord l'échec du président Macron et de sa majorité ?
On a fait beaucoup pour réduire les fractures dans notre pays. Est-ce qu'on a résorbé toutes les fractures dans notre pays ? La réponse est non, évidemment. Il reste effectivement un paysage politique qui est marquée par des extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Il faut continuer à agir. En tout cas, nous, c'est le sens de notre action pour répondre aux inquiétudes des Français.
L'extrême gauche qui n'est pas perçue comme l'extrême gauche.
Qui est appelée la gauche désormais.
Il n'est pas perçu comme l'extrême gauche et on le voit très bien dans les votes en faveur de la NUPES où les électeurs de gauche ont voté de façon égale, quelle que soit l'étiquette du candidat, qu'il soit socialiste, écologiste ou insoumis.
Je pense qu'il y a des électeurs qui, c'était la même chose d'ailleurs à la présidentielle au premier tour, ont voulu envoyer un message, peut-être sur des questions environnementales, sur des questions sociales, effectivement en utilisant un bulletin Mélenchon ou ici NUPES. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on discute avec eux, qu'on leur présente ce qu'est le programme de la NUPES, on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup de ces mesures qui ne sont pas connues et qui inquiètent. Et donc je pense que ça doit être ça le débat quand même des élections législatives. Et le deuxième tour, c'est un deuxième tour de clarification. Il y aura une clarification avec le vote. Et le débat qui nous sépare de dimanche doit nous permettre d'avancer projet contre projet.
Qu'est-ce qui rebute les électeurs, par exemple ?
Il y a un projet qui est républicain, le nôtre, et un projet qui s'éloigne de la République. La NUPES, par exemple, veut abroger les dispositifs qu'on a mis en place pour lutter contre l'islamisme radical dans notre pays.
La loi séparatiste.
Oui, la loi séparatiste qui arme aujourd'hui l'État pour lutter contre le développement de l'islamisme dans notre pays. Il y a un projet qui est européen, le nôtre, qui veut changer l'Europe, mais qui veut la renforcer. Puis un projet qui conduirait in fine quand même à nous éloigner de l'Union européenne. Il y a un projet qui vise quand même à continuer à protéger les Français, à être en capacité de pouvoir investir pour eux, avec une responsabilité budgétaire. Et puis un projet de ruine économique qui propose 330 milliards d'euros de dépenses en plus par an, c'est-à-dire 1 milliard par jour, sans préciser le financement de ces mesures.
Qui propose surtout de redonner de l'argent aux plus modestes.
Non, qui propose 330 milliards sans financement. Et donc, moi, je veux bien qu'on dise qu'on va donner de l'argent à certains, mais si c'est pour leur reprendre de la même manière par des taxes et des impôts, je pense que les Français, ils ont déjà vu ça par le passé.
C'est pas dans le programme.
Il n'y a pas de financement dans le programme. Il y a des augmentations d'impôts qui sont dessinées, mais la réalité, c'est qu'elles ne permettent pas de financer les mesures. Donc, à la fin, on sait que c'est les Français qui payent, c'est la taxe écoulée. Voilà. Et puis, il y a un projet qui est, je crois, crédible sur la transition environnementale et la transition énergétique, qui propose de sortir des énergies fossiles, du charbon, du pétrole, en investissant massivement dans le nucléaire et les énergies renouvelables. Et puis, il y a un projet qui est totalement irréaliste, puisqu'il vise à nous priver du nucléaire.
Et quand même à investir massivement aussi dans les énergies renouvelables.
Oui, mais on sait très bien que se priver du nucléaire, même en investissant dans les énergies renouvelables, ne permettrait pas de couvrir la demande en électricité qui va exploser dans les années qui viennent du fait de l'électrification des usages. Et donc, la réalité, c'est que moi, je le crois profondément. On a un projet qui est sérieux, crédible sur tous ces sujets-là. Ce qui n'est pas le cas du projet de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Et le débat des élections législatives, il doit viser à confronter nos projets.
On a bien compris que c'était un peu l'idée de c'est nous ou le chaos, c'est nous ou la ruine. C'est le genre de formule qui avait été utilisée avant l'élection présidentielle face à l'extrême droite. Cette fois-ci, c'est face à l'extrême gauche. Et ça n'a pas échappé aux militants de la NUPES rencontrés hier par Iban Raïs et Anaïs Recouli.
La manière dont Macron et tous ses porte-paroles se comportent à l'égard aujourd'hui de cette union est absolument irrespectueux des règles de la démocratie.
On avait vraiment l'impression d'entendre les mêmes commentaires qu'en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, les chars vont défiler, oui, Jean-Luc Mélenchon mange les enfants, enfin, des choses d'un ridicule absolu.
Tout à coup, en effet, il essaye d'établir une comparaison entre cette union de la gauche et l'écologie et le Front National. Enfin, c'est absolument... c'est désespérant, en réalité.
Je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette semaine, quoi. Ils ont grillé toutes leurs cartouches. Là, à part dire qu'on mange des enfants, mais Libé a déjà fait la blague. Donc, je pense qu'ils ont plus rien.
D'autant qu'en l'espace de quelques semaines, le discours face à la gauche a changé. Exemple avec Richard Ferrand au soir du premier tour de la présidentielle et hier soir.
Moi qui suis un homme de gauche, moi qui connais bien la gauche, moi qui connais beaucoup de gens qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon, eh bien je sais très bien que nous avons des idées différentes mais des valeurs communes. Il faut clairement dire que le second tour, c'est un choix de valeurs. C'est un choix entre deux projets qui sont diamétralement opposés.
Des valeurs communes il y a deux mois et deux projets et des valeurs diamétralement opposées, ça c'était hier soir.
Parce que dans le premier extrait, il parlait des électeurs de gauche qui connaissent et des valeurs qu'il partage avec des électeurs de gauche qui ont pu faire le choix de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et dans le deuxième extrait, il parle des candidats et du projet qui est porté par Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris.
Je trouve qu'il se retrouve au deuxième tour face à
oui. Et donc, ce qu'il explique, c'est que dans cette candidature qu'il a en face de lui, dans le projet qui est porté par la NUPES, ne partage pas les valeurs sur beaucoup de sujets. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas les valeurs des électeurs. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, justement, moi, j'en connais des électeurs de gauche qui ont fait le choix pour envoyer un message au premier tour de l'élection présidentielle ou peut-être même aux législatives, de mettre un bulletin Mélenchon ou Nupes. Voilà, mais il faut faire la distinction entre des électeurs. Moi, je ne fais jamais la leçon aux électeurs. Je ne donne jamais des leçons de morale sur le sujet des valeurs ou autres. Et puis, les candidats et les projets qu'ils défendent.
Mais là, la ficelle n'est pas un peu grosse, là, de diaboliser en fait, la NUPES et son projet?
Moi, ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure et depuis le début de cette campagne, c'est de parler du fond. Est-ce que tout à l'heure, vous avez eu l'impression, quand je vous expliquais projet contre projet, ce qu'il y avait dans chacun des projets, que je diabolisais ou que je faisais des formules?
Gabriel Attal, projet contre projet, ça n'a pas eu lieu pendant toute la campagne législative. Ça n'a pas existé. Vous avez vu un débat télévisé en dehors des débats locaux organisés par France 3. Vous avez vu
les
grands débats organisés leader contre leader sur les projets législatifs.
Du fait des règles de temps de parole, c'est assez compliqué. France 2 a essayé d'en faire un. Et je crois que beaucoup ont dit que c'était quand même difficilement audible, parce que la réalité, c'est que du fait des règles d'égalité de temps de parole, c'est très dur. Mais en tout cas, on n'a pas ménagé nos efforts. Je veux dire, on a la moitié du gouvernement qui est candidat dans ces élections. La moitié
Macron,
du gouvernement, ça montre bien quand même qu'on est très investi dans cette campagne, qu'on est prêt à la faire vivre.
S'est investi, s'est engagé comme il aurait fallu.
Il a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Moi, ce que je sais,
deux reprises en 10 jours.
Moi, ce que je sais, c'est que les mêmes qui disent aujourd'hui le président ne s'est pas investi dans la campagne, auraient été les premiers à dire il est chef de l'État, il n'est pas le chef d'un camp, ce n'est pas lui le chef de la majorité présidentielle.
Si ce n'est pas lui, alors les ministres qui étaient engagés
toujours,
dans la campagne.
De toute façon, je vois bien, dans le débat, on trouve toujours des bonnes raisons pour dire que le président de la République ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Voilà, et donc on nous aurait dit exactement l'inverse si jamais il s'était exprimé davantage sur ce sujet-là. L'important, c'est qu'il y ait des candidats qui fassent campagne sur le terrain. Et je peux vous dire qu'ils font campagne. Moi, je suis allé faire campagne. Je fais campagne pour moi, évidemment. Mais je suis allé faire campagne aussi pour des collègues, des amis qui sont aussi candidats aux élections législatives. Il y a des vraies campagnes sur le terrain. Et oui, il y a des
vous
débats dans la presse quotidienne régionale.
Vous êtes allé soutenir Jean-Michel Blanquer, qui a été éliminé hier au premier tour?
Je suis allé soutenir plein de candidats. Voilà, M. Le Clabart dans la Somme. Je suis allé soutenir Fabienne Colboc en Indre-et-Loire. Je peux vous en citer beaucoup.
C'est le bilan de Jean-Michel Blanquer qui a été désavoué hier soir?
Il a mené un combat difficile parce qu'il s'est présenté dans une circonscription difficile, où le Rassemblement national avait fait un score élevé. Et donc, c'était assez courageux comme choix de sa part. Ça n'a pas fonctionné.
Parce que votre parti ne lui a pas proposé une circonscription plus favorable. Vous savez très bien qu'il est allé là-bas parce qu'il n'avait pas le choix.
C'est pas ce qu'il a dit. Encore une fois, moi, je pense qu'il a fait un choix courageux. Et voilà, moi, je veux lui dire ma solidarité, mon amitié. Et je suis sûr qu'il continuera à avoir une voix dans le débat public.
Le Rassemblement national, on l'a dit, qui progresse. Et pourtant, hier soir, on a assisté à une confusion autour des consignes de vote en cas de duel au second tour entre la NUPES et le Rassemblement national.
Moi, je veux bien qu'on tire des généralités sur 2 ou 3 ou peut-être une dizaine de circonscriptions. Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national.
Je l'ai toujours dit à titre personnel, moi, je n'ai jamais mis de signe égal entre la NUPES, même ce que je considère comme étant l'extrême gauche, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, et le Rassemblement national.
Pas une voix ne doit aller aux extrêmes.
Mais quand vous dites les extrêmes, vous les mettez dans le même sac, les deux.
Bien, on voit bien qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle fait face aux extrêmes.
Parce que ça veut dire que dans certains cas, vous pourriez soutenir un candidat RN.
Bien entendu que non. Ça n'a jamais été notre projet politique.
Je parle en tant que porte-parole de La République En Marche. Je vous le redis, pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national et aux candidats de l'extrême droite.
Notre position, c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite, quand on a des candidats NUP, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui.
C'est donc aux électeurs de faire le tri en cas de duel NUP-RN, à eux de vérifier les positions du candidat NUP.
D'abord, c'est quand même toujours aux électeurs de décider. On voit à chaque fois dans les élections la question des consignes de vote, etc. Moi, j'ai toujours considéré quand même que les électeurs... les consignes, ça fait plaisir aux états-majors, mais la réalité, à la fin, c'est quand même l'électeur qui décide. Donc là, quelle est notre ligne à nous? C'est de dire qu'évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait un vote d'un de nos électeurs pour un candidat du Rassemblement national. En tout cas, on n'appelle évidemment pas à voter pour un candidat du Rassemblement national. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, au niveau local, effectivement, selon les candidatures, vous avez des candidats qui se sont quand même assez nettement... qui ont pu s'éloigner des valeurs de la République, d'autres qui sont très ancrés dans les valeurs de la République, quand bien même ils ont un projet qui est celui que je vous évoquais tout à l'heure, de sortie de l'Union européenne, de ruine, etc. On a annoncé, par exemple, qu'on soutenait la candidature de Marine Tondelier à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen. On a annoncé qu'on soutenait la candidature, je crois, de Fabien Roussel. on a annoncé qu'on soutenait la candidature de Valérie Rabault. Voilà. Donc vous avez, il se trouve que c'est une écologiste, un communiste, une socialiste, vous avez des candidats dans l'alliance NUPES qui n'ont jamais montré qu'ils s'éloignaient des valeurs de la République. Ils soutiennent un projet avec lequel on est radicalement en désaccord parce qu'on pense qu'il est dangereux pour le pays, encore une fois, pour des raisons économiques, environnementales et d'adhésion à l'Union européenne. Mais la réalité, c'est qu'ils partagent les valeurs de la République.
Et les insoumis, ça pourrait arriver, normal. Non.
Bah, j'imagine qu'il y a probablement dans les candidats insoumis, peut-être, des candidats qui se retrouvent aussi dans les valeurs de la République. Enfin, il faut regarder les déclarations, les prises de position qui ont été celles des uns et des autres. Si vous êtes un candidat que vous avez eu l'occasion de dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, qu'il fallait soutenir la Russie contre l'Ukraine, voilà, je vous donne des exemples de positions qui peuvent exister. Bah, évidemment, on n'appellera pas à voter pour ces candidats. Je pense que chacun peut le comprendre. Mais encore une fois, je pense que, un, il y a les consignes de vote et puis surtout, il y a les électeurs qui décident. Et deux, on parle là d'un sujet qui concerne, je crois, à peine 10% des circonscriptions. Donc, c'est quand même pas le principal sujet. L'écrasante majorité des circonscriptions, vous avez un candidat de la majorité présidentielle qui est face à un candidat du RN ou de la NUPES. Je veux bien, depuis tout à l'heure, qu'on parle comme si la situation était dramatique pour la majorité, etc., qu'il n'y a que du négatif. Enfin, on est premier en nombre de voix et on est le parti qui a le plus de candidats au second tour de cette élection. Plus de 420, je crois. Donc, je veux dire, la majorité présidentielle, elle est là, elle est solide, dans un contexte historique. C'est la première fois qu'on a un président réélu hors cohabitation. Et donc oui, c'est sûr que c'est une situation historique, c'est une élection qui n'est pas classique. Et en plus, elle se tient dans un contexte de crise internationale, crise ukrainienne, conséquences économiques, inflation, qui évidemment ont un impact aussi sur l'élection. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un combat, il y a un débat, il y aura une clarification au deuxième tour, mais on est parfaitement dans cette campagne.
Mais avec le risque que vous n'ayez pas la majorité absolue, ouais, et que le gouvernement n'ait pas les mains libres pour mener les réformes qui ont été promises pendant la campagne présidentielle et pendant celle des législatives également. C'est ça la perspective
d'abord,
du second tour.
D'abord, le gouvernement n'a jamais les mains libres, puisqu'il y a un contre-pouvoir qui s'appelle le Parlement, qui est quand même là pour contrôler l'action de l'exécutif et pour élaborer la loi. Le gouvernement, il propose et le Parlement vote et élabore la loi. Il y aura une pluralité politique au Parlement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une pluralité politique, que différents partis soient représentés à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce que je crois profondément, c'est que les Français ont besoin d'une majorité solide, cohérente, en capacité de prendre les décisions nécessaires pour les protéger. Parce que la réalité, c'est que si la coalition NUPES venait à avoir un très grand nombre de députés, vous voyez bien que ce ne serait pas une majorité, mais une addition de minorités, puisque sur beaucoup de sujets, ils ne sont pas d'accord entre eux, notamment sur la question européenne, sur la question du nucléaire, sur d'autres questions. Dans un moment de crise internationale, conflit en Ukraine, crise économique, inflation au niveau mondial, les Français, ils ont besoin d'un État qui est capable de prendre les décisions pour les protéger. Nous, on est prêts à le faire. On a une loi sur le pouvoir d'achat qui est prête à être discutée dès le mois de juillet, avec une augmentation de 4% des pensions de nos retraités, le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, une rémunération du travail améliorée. On a une loi sur le développement des énergies renouvelables qui est prête pour cet été aussi, et une loi sur le renforcement de notre sécurité qui est prête aussi. On est prêts à discuter ces textes, à les voter pour protéger les Français. Face à ça, vous avez un risque d'un État désarmé, avec pas de majorité, et donc l'impossibilité de prendre des décisions nécessaires à la protection des Français.
Gabriel Attal, je voudrais évoquer une forme de protestation qui a donné lieu à une polémique ce week-end. Jeudi, rappel des faits, Emmanuel Macron est en visite dans le Tarn, il est interpellé par une jeune lycéenne.
Vous nous dites que votre principal, enfin, l'objectif principal de votre quinquennat, c'est l'égalité des femmes et la protection des femmes qui sont violentées. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi ?
L'égalité des femmes, j'étais là en train d'en parler. Parce que je suis pour la libération de la parole et je l'ai accompagnée et je continuerai de l'accompagner et de la protéger. En même temps, pour fonctionner en société,
oui, c'est avoir
de la présomption d'innocence.
Égalité père-mère.
Mais en fait, c'est la visite des gendarmes le lendemain dans son lycée qui a fait débat. Ils ont été accusés d'avoir voulu, ou en tout cas d'avoir intimidé la jeune fille. Laura, c'est son prénom, a témoigné devant BFM.
C'est pas anodin d'être sorti de son cours pour être interrogé par la gendarmerie. Les mots que la gendarme a dit, c'est « vous auriez pas dû faire ça ». Il y avait d'autres façons d'interpeller le président. On lui écrivant par exemple en s'adressant à des journalistes, ou en s'adressant à des associations. Je me demande pourquoi on confie notre pays à des gens qui sont accusés de violence. Pas mal de monde se pose la question et j'ai pas eu de réponse.
Alors la gendarmerie a dit avoir voulu simplement savoir si cette jeune fille voulait porter plainte suite à un signalement, le signalement d'un harcèlement. Ils lui ont ensuite présenté des excuses. En fait, vous devez comprendre sans doute l'émotion de la jeune femme, mais est-ce qu'il s'agit d'une maladresse des gendarmes ou même voire une maladresse du principal du lycée qui a laissé intervenir les gendarmes à l'intérieur de l'établissement?
En tout cas, c'était inapproprié. Voilà, moi, j'ai découvert ça ce week-end et j'avoue que je n'ai pas compris du tout qu'on se retrouve avec des gendarmes qui viennent sortir une lycéenne de classe. Cool. Alors, j'ai vu l'explication qui a été donnée par la gendarmerie. Et par ailleurs, vous l'avez dit, ils ont présenté des excuses. Voilà. Mais c'est vrai que c'était inapproprié et que j'étais très surpris quand j'ai vu ça.
On peut encore interpeller le président de la République sans voir les gendarmes débouler chez soi?
Évidemment, puis surtout on a vu que, je crois que tout au long de ce quinquennat et encore ces derniers mois, qu'on a un président de la République qui va au devant du débat, du dialogue, parfois de la confrontation. Il a même été violent à un moment, puisqu'il y avait eu un geste très violent contre lui. Il a toujours été, vous savez, il n'y a pas de filtre. Quand le président se déplace, tout le monde peut venir l'interpeller. Et voilà, je pense que c'est aussi à mettre à son crédit. Et par ailleurs, il avait répondu à la jeune fille.
70% des moins de 35 ans se sont abstenus. Vous avez 33 ans, Gabriel Attal. Comment vous expliquez cette démocratie, ce désintérêt des plus jeunes, cet absolu manque de confiance? On les a entendus là, dans le récap de Mathieu Béliard. Enfin, vous n'appartenez pas à cette génération.
Même aux élections régionales, c'était 90%, je crois, des jeunes qui n'avaient pas voté. C'est très préoccupant. C'est un sujet profond. C'est un sujet, à mon avis, qui doit embarquer tout le monde, c'est-à-dire toutes les formations politiques, les corps intermédiaires, les associations, pour essayer à la fois, c'est pas tant de trouver des réponses que de réinventer à la fois nos institutions et puis une pratique politique. Le président, il a annoncé un Conseil national de la refondation, avec au sein de ce Conseil une vraie réflexion qui associerait tous les partis sur nos institutions. Comment on fait pour avoir des institutions qui sont davantage connectées avec les Français? Comment on fait pour donner à voir aux Français que leur vote a un impact et comment on fait pour permettre aux Français de participer davantage aux décisions qui sont prises tout au long d'un quinquennat? C'est ça la question.
C'est aussi plus un débat politique, pas seulement d'institutions.
Oui, bien sûr.
Quand le débat politique est uniquement alimenté par des appels à voter contre, je ne pense pas que ça puisse forcément emballer les jeunes qui refusent d'aller voter.
Je suis d'accord avec vous.
On a ça dans le débat depuis des mois aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est donc aussi la responsabilité des formations politiques, de toutes les formations politiques. Moi, j'avais noté, je crois que c'était aux dernières élections européennes, qu'il y avait eu un léger recul de l'abstention chez les jeunes. Et j'avais voulu y voir le fait que dans cette élection européenne, il y avait pour le coup eu aussi un vrai débat sur un certain nombre de grands enjeux européens, et notamment la question du climat. Voilà. Mais force est de constater qu'il y a, chez les jeunes, ce sentiment qu'il n'y a pas d'utilité à aller voter. Voilà. Et je pense qu'il faut y répondre. Il faut avoir une nouvelle pratique politique aussi. On passe notre journée à donner notre avis sur ça, sur plein d'implications, sur à peu près tout. Et en fait, c'est la politique où... voilà, je veux dire, il y a aussi des nouveaux moyens, je pense, via le numérique, d'associer davantage, de consulter davantage les Français, de leur permettre de participer. C'est évidemment pas ça qui va résoudre le problème. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être déployées.
Le premier parti de France est donc celui des abstentionnistes, avec plusieurs explications, fatigue démocratique, désintérêt pour le scrutin législatif, et météo à ne pas s'enfermer ne serait-ce que quelques minutes dans un bureau de vote.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes allé voter aujourd'hui ?
Non, je ne suis pas allé voter. Il fait beau, j'ai un peu perdu espoir en la politique. Voilà, autant profiter de sa journée et pas perdre son temps à se rendre aux urnes.
Alors non, je ne suis pas allé voter aujourd'hui aux législatives. J'ai été très déçu des résultats des présidentielles.
Mademoiselle, est-ce que vous êtes allé voter aujourd'hui ?
Malheureusement, non.
Non, je ne suis pas allé voter.
Pourquoi ?
Parce que j'ai passé la journée avec ma famille. Et c'était plus sympa, du coup. J'ai préféré aller au restaurant.
Un beau temps qui va virer dès demain et jusqu'à samedi à la canicule avec une vague de chaleur en provenance du Sahara et qui frappe déjà l'Espagne.
Un immense brasier à quelques dizaines de kilomètres de Malaga. La montagne brûle, les flammes avancent de 30 mètres par minute. L'incendie a débuté hier en fin d'après-midi, favorisé par les très fortes chaleurs.
Une chaleur venue du Maroc qui touche déjà l'Espagne. Ce dimanche à Séville, il fait 41 degrés à l'ombre. Les corps sont mis à rude épreuve.
On se met nous-mêmes à l'ombre avec eux. Mais quand on circule, le soleil cogne et ça fatigue les animaux.
Généralement, en juin, il ne fait pas aussi chaud. Je ne sais pas ce qui se passe avec la météo, mais ça devient dur à supporter.
Une canicule, en tout cas des températures caniculaires dès la mi-juin, c'est très précoce et c'est ça qui étonne et qui inquiète Chloé Nabédian. Je ne vous ai même pas dit bonsoir, Chloé Nabédian, journaliste météo sur France 2, pardon.
Alors oui, ça inquiète, mais en même temps, ça n'étonne plus aujourd'hui puisque c'est conforme aux prévisions du GIEC. Ils annonçaient depuis très longtemps déjà qu'on aurait ces canicules de façon beaucoup plus précoce qui pourraient s'étendre même de mai jusqu'au mois d'octobre. Et finalement, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Donc, c'est attribuable au changement climatique ?
Probablement, oui. Là, on est sur des valeurs totalement exceptionnelles. On va atteindre, vous vous rendez compte, des 41 degrés en Gironde ce week-end. Enfin, c'est des valeurs totalement inédites pour la saison. On va probablement battre des records. Il faudra s'y intéresser de très près ces prochains jours.
Avec cette air en provenance du Sahara et qui pourrait revenir aussi en plein cœur de l'été. Et là aussi, cet été, on pourrait avoir des températures caniculaires.
Alors là, on ne peut pas définir le climat qu'il va y avoir cet été. On a des prévisions saisonnières qui donnent une tendance. Donc, on sait que ça pourrait être plus chaud et plus sec que la normale, mais ça s'arrête là. Peut-être qu'on aura un été où il va beaucoup pleuvoir, où des températures seront normales, ça on ne peut pas encore le définir. Par contre, si la même situation se positionne effectivement sur la France pour cet été, on pourra atteindre peut-être des 46-47 degrés comme on avait déjà eu malheureusement il y a encore quelques années.
Pourquoi Météo France parle d'une vague de chaleur et pas encore d'une canicule ?
Parce qu'il y a des seuils en fait très précis qui différencient un petit peu les deux. Pour la canicule, il faut qu'on dépasse certains seuils selon les départements, 3 jours et 3 nuits consécutives, et ils vont probablement lancer une vigilance canicule à partir de demain, puisqu'on attend vraiment ces seuils-là qui pourraient être dépassés dès mercredi et qui pourraient s'étendre jusqu'à samedi. On ne sait juste pas encore aujourd'hui comment ça va évoluer à partir de dimanche. Peut-être qu'il y aura brutalement des orages et qu'on va redevenir un petit peu plus calme à partir de dimanche, ou peut-être que ça pourrait s'étendre sur l'est de la France jusqu'au début de la semaine prochaine. Là encore, c'est incertain.
En Californie, le mercure a atteint les 50 degrés dans la vallée de la mort. À Phoenix, dans l'Arizona, 46. Ce n'était pas arrivé depuis 1918.
We're talking about these two fires. First, a fast-moving fire that is getting dangerously close to homes in and around Wrightwood.
You're looking at the smoldering hillside here, very dry brush that is burning. Fire crews from all over the Inland Empire are out here tonight on the front lines, trying to stop the so-called sheep fire from getting any larger.
On pourrait se dire que la Californie pardon, est habituée à ces fortes de chaleur, mais il ne faut pas du tout les prendre à la légère.
Ah, loin de là, surtout que c'est un vrai problème chez eux qui devient extrêmement récurrent. Ça devient limite invivable maintenant de plus en plus en Californie, avec ces incendies qui sont en train de ravager chaque année davantage d'hectares à chaque fois, les températures aussi qui sont absolument exceptionnelles. Je me rappelle d'une anecdote aussi l'année dernière où tout le monde avait mis sa climatisation en rentrant du travail le soir, et comme il y a quand même beaucoup d'énergie renouvelable là-bas, ça n'a pas été nécessaire en fait, et suffisant pour que tout le monde puisse utiliser la climatisation et se rafraîchir tellement que les températures étaient extrêmement importantes. Donc on est dans une situation aujourd'hui critique. On a eu l'Inde et le Pakistan encore dernièrement. Ça devient limite invivable pour l'être humain. Donc on se pose aujourd'hui les questions de l'adaptation. Il faut vraiment mettre en œuvre aujourd'hui les solutions pour adapter l'être humain à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est vraiment la chose et la ligne directrice pour les années à venir.
Je vous fais réagir dans un instant, Gabriel Attal, mais d'abord, Pierre, la situation en France.
Oui, une canicule qui vient s'ajouter, une canicule officieuse, qui vient s'ajouter à un automne et un hiver et surtout un printemps exceptionnellement chaud et sec. De quoi inquiéter les agriculteurs dont les récoltes souffrent déjà. On voit ici ce champ de lavande très sec, une lavande dont les tiges sont plus courtes que d'habitude. Cette canicule va ajouter à la sécheresse, évidemment.
Effectivement, les sols sont extrêmement secs. Les nappes phréatiques des gens en hiver ont été à un niveau extrêmement bas puisqu'il a manqué vraiment beaucoup d'eau. Et là, les agriculteurs sont les premières victimes de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les fortes chaleurs, la grêle qu'il y a eu, le gel qui est arrivé également alors qu'on a eu un hiver extrêmement doux. Donc ce sont vraiment eux aujourd'hui qui payent le plus lourd tribut de ce qui se passe.
Et une vague de chaleur avec du vent dans certaines régions en plus qui a provoqué les premiers incendies de la saison. Plus de 100 hectares de végétation sont déjà, comme on dit, parti en fumée.
Mobilisation générale des pompiers à Vitrolles. Le feu a pris à quelques centaines de mètres seulement de leur caserne. Il s'est déclaré peu après 14 heures dans le quartier de la gare et ne cesse depuis de grignoter du terrain. 7 hectares ont déjà été dévorés par les flammes. Certains habitants n'ont eu d'autre choix que de partir temporairement.
J'ai évacué de suite, j'étais toute seule. Donc j'ai pris le chien et je suis partie.
D'autres incendies se sont également déclarés un peu plus à l'ouest, à Miramas, ainsi qu'à Vivario, en Corse. Dans ce village, en plein centre de l'île de Beauté, l'incendie a démarré la nuit dernière.
C'est tôt pour les premiers incendies.
C'est tôt également. Et d'ailleurs, il faudra vraiment surveiller aussi ce qui va se passer dans la région à partir de jeudi, vendredi, puisque de nouveau, le Mistral va souffler très fort. Et là encore, les sols sont extrêmement secs. La végétation, surtout, est très sèche. Et donc, la moindre petite étincelle peut faire partir un feu terrible maintenant.
Gabriel Attal, ça va être au sujet du prochain Conseil des ministres, canicule.
Je crois que le président a choisi de mettre la vague de chaleur à l'ordre du jour du Conseil des ministres. D'abord pour évidemment rappeler les gestes nécessaires l'attention que chacun doit porter évidemment aux personnes fragiles, aux personnes âgées. Et puis la question de l'adaptation de nos villes, de l'aménagement urbain dans ce contexte-là, qui nous rappelle aussi évidemment l'urgence à agir contre le réchauffement climatique. Quand je parlais tout à l'heure de notre objectif de sortir la France des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, quand on investit massivement pour permettre aux Français de changer leurs usages, de changer de véhicules, de rénover l'isolation de leur logement, quand on prend toutes ces mesures aussi à l'international, c'était le cas à la dernière COP, on a quand même trouvé des coalitions, des alliances pour permettre à certains pays de sortir du charbon, en tout cas de le programmer, pour arrêter la déforestation dans une dizaine d'années. Voilà, ça rappelle l'urgence à agir parce qu'on voit ces phénomènes, je parle sous votre contrôle, se multiplier et évidemment aussi l'urgence à aller plus vite et plus loin.
Donc des mesures concrètes éventuellement annoncées
Alors, je n'ai pas les détails, je ne suis plus porte-parole du gouvernement, donc je verrai demain, mais oui, je crois que ça sera abordé au Conseil des ministres, à la fois, encore une fois, parce que c'est toujours important de rappeler, et peut-être que certains nous écoutent, que c'est extrêmement important de prendre des nouvelles de ses proches, et notamment de ses proches fragiles, de vérifier qu'ils s'hydratent bien, qu'ils restent au frais le plus possible, etc. Et puis plus globalement, la question de notre adaptation, comme vous le disiez, face à ces phénomènes qui sont de plus en plus nombreux. Mais ne perdons pas de vue que l'enjeu, c'est évidemment pas uniquement de s'adapter à ces phénomènes, mais de faire en sorte de les limiter au maximum dans l'avenir, en agissant de manière plus forte sur le réchauffement climatique.
Merci Chloé Nabédian, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mathieu.
Rebonsoir, bah oui, tu es là.
Amnesty International dénonce des violations du droit de la guerre à Kharkiv.
Oui, ce n'est pas surprenant au regard de ce que nous avons pu raconter ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est précis et documenté. L'ONG qui a enquêté sur 41 frappes qui ont visé la ville de Kharkiv, je le rappelle, c'est la deuxième ville du pays, tout à l'est du pays, non loin de la frontière avec la Russie. Amnesty International dénonce des attaques aveugles, indiscriminées, ce qui veut dire qu'elles frappent aussi bien la population civile que l'armée ukrainienne. On a souvent vu ces images de frappes touchant des populations, par exemple faisant la queue pour de l'aide humanitaire. C'est aussi l'utilisation de bombes à sous-munitions et de mines dispersables qui est dénoncée, des armes, des munitions interdites par le droit international, par les traités. Le rapport d'Amnesty est titré « Tout le monde peut mourir à tout moment ». Audrey Payas a interrogé Jean-Baptiste Galopin de l'ONG, justement, Amnesty International. Il fait partie de ses responsables de cette enquête.
Les bombes à sous-munitions qui ont été utilisées par les forces russes sont en fait des roquettes qui contiennent chacune 30 bombes de plus petite taille qui sont libérées dans l'air. Nous-mêmes avons documenté des frappes qui ont tué plus de 62 personnes et blessé plus de 196 personnes. Donc c'était des personnes qui essayaient de vivre leur vie, qui étaient sur un terrain de jeu avec leurs enfants, qui faisaient la queue pour acheter des victuailles au supermarché. Le fait que la Russie n'ait pas signé la convention sur les armes à sous-munitions, en l'occurrence, ne change rien en fait que ce droit s'applique à eux. Et donc nous, notre travail consiste à donc documenter ces crimes de guerre afin de préparer le terrain à des poursuites judiciaires. Et nous appelons les institutions qui ont une juridiction sur ce conflit, notamment la Cour pénale internationale et les autorités ukrainiennes, à rassembler les preuves et à les préserver en vue d'une justice sur ce conflit.
Les autorités locales parlent de 600 civils tués dans la zone administrative de Kharkiv et de 1248 blessés. Sur le front, à présent, l'armée ukrainienne annonçait ce matin abandonner le centre de Severodonetsk. On compare souvent cette ville de l'Est à Mariupol depuis plusieurs semaines. C'est là que les combats se concentrent désormais et qu'ils sont le plus durs ces derniers jours. C'est le gouverneur pro-Kiev de la région qui reconnaît que les derniers assauts russes ont été trop forts, trop durs. Tout le week-end, en réalité, on a parlé de combats de rue et de soutien de l'artillerie de l'envahisseur. Peu à peu, les Russes prennent le contrôle de cette ville clé du Donbass.
Северодонецк фактически уже блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединялся с Лисичанском, поэтому те воинские подразделения украинские, которые там остались, они остались там уже навсегда. У них два варианта. Или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта там не будет.
Et pour clore cette page sur la guerre en Ukraine, on vous avait raconté le départ de McDonald's de Russie, conséquence de la guerre et des sanctions. Une quinzaine de restaurants ont rouvert ce week-end en remplacement, en réalité, de l'enseigne américaine. Nouvelle chaîne, donc, Vkusno Itochka, ce qui veut dire délicieux point. Une cinquantaine de nouveaux restaurants devaient être inaugurés aujourd'hui. La chaîne annonce 50 à 100 ouvertures par semaine à travers le pays. Gabriel Attal, d'abord, sur ce point-là qui a l'air léger, comme ça, McDo remplacé par des Russes, c'est une forme de pied de nez aux sanctions qu'on a pu adresser à la Russie.
Je n'ai pas de commentaire à faire sur le cas d'espèce. On a vu qu'il y avait, depuis le début de ce conflit, des tentatives de contournement de sanctions qu'on a été amené à prendre. Et on a toujours cherché à agir face à ces contournements. Je ne sais pas si on l'espèce, c'est possible de le faire.
Au-delà du contournement lui-même, parce que là, c'est un sujet léger que celui des fast-foods, mais Vladimir Poutine a l'air de dire « vos sanctions, je m'en moque ».
C'est pour ça qu'on continue à se mobiliser au niveau européen, qu'on cherche à trouver des accords pour aller plus loin sur un certain nombre de sanctions. Vous avez vu que, notamment sur les questions gazières, pétrolières, on a avancé, on a pu trouver des accords pour aller plus fort sur nos sanctions. On continue aussi à soutenir les Ukrainiens, mais force est de constater que Vladimir Poutine reste très déterminé à atteindre ses objectifs et que la situation reste très difficile et qu'aujourd'hui on ne voit pas encore le bout du tunnel.
Et de l'autre côté du front, Gabriel Attal, c'est un bruit qui court ces derniers jours et puis il est attendu depuis de longues semaines sur place. Est-ce qu'Emmanuel Macron va se rendre en Ukraine ?
Je n'ai aucune information à communiquer sur ce sujet-là. Je le disais tout à l'heure, je suis plus porte-parole du gouvernement.
Vous ne pouvez pas vous renseigner ?
La présidence française de l'Union européenne.
Je n'ai plus à répondre à cette question-là.
Prochainement, pas de réponse.
Ce sera un signe fort.
En tout cas, il reste très mobilisé. Je crois qu'il a encore échangé récemment avec le président Zelensky. Il reste très mobilisé sur ce sujet-là, avec toujours cette volonté de continuer à faire l'intermédiaire entre la Russie...
Même si ça lui est reproché parfois et assez vertement par Volodymyr Zelensky.
Oui, et en même temps, à chaque fois que le président a eu à téléphoner au président Poutine, c'était avec l'accord, si ce n'est à l'initiative et à la demande du président Zelensky, puisque le président Poutine n'a jamais souhaité échanger directement avec lui. Donc ça reste une situation extrêmement difficile et tendue, et on cherche à garder cette capacité de dialogue pour un moment donné, quand peut-être les sanctions qui sont prises produiront leurs effets et que cette guerre coûtera trop cher à Vladimir Poutine à tel point qu'il sera obligé d'y renoncer, qu'on ait un canal de discussion ouvert pour essayer de sortir par la voie diplomatique de ce conflit.
Le New York Times révèle des photos secrètes de Guantanamo.
Le centre de détention militaire américain basé sur l'île de Cuba, des clichés qui ont été tenus secrets pendant 20 ans et qui vont défiler sur votre écran. Il s'agit en fait de photos prises par l'armée elle-même des tout premiers prisonniers en provenance d'Afghanistan. Il s'agissait de documenter la vie dans le centre de détention. Seuls des hauts gradés et officiels du gouvernement américain devaient voir ces photos, des photos pour l'histoire, des détenus au visage et mains scotchées. Alors, sous-alimenté, ça a été souligné, sous-alimenté parfois, mais il faut préciser que des détenus à l'époque refusaient de se nourrir et l'étaient de force. L'histoire retiendra ces clichés en complément des témoignages déjà recueillis, rapportés ces dernières années.
15 jours, on m'explique que j'y suis transféré. Donc ça recommence, la cagoule sur la tête, sauf que là, on m'a rasé la tête et la barbe et on m'a mis un casque dans les oreilles, un masque dans les yeux et des gants. Très vite, j'apprends que je ne suis pas aux États-Unis, mais je suis à Cuba, dans une ville qui s'appelle Guantanamo, dans une base militaire américaine. Ils nous disent ici, t'es qu'un numéro, tu n'as pas de droit, pas de loi, on fait ce qu'on veut. Eux utilisent ce qu'ils ont appelé d'ailleurs des techniques d'interrogatoire musclées ou coercitives. Je vais donner juste deux, trois exemples. Par exemple, la privation de sommeil, le fait d'être menotté aussi dans des positions douloureuses, des humiliations sexuelles. En fait, on est en train de payer l'atrocité que d'autres ont fait.
780 détenus sont passés par la prison de Guantanamo. 18 ont été inculpés et 5 seulement condamnés par un tribunal militaire. Aujourd'hui encore, 37 personnes y sont détenues sur l'île de Cuba. Barack Obama, en son temps, puis Joe Biden ont promis de fermer ce centre de Guantanamo.
C'est très rare, le prince Charles sort de sa neutralité et prend une position politique.
Alors c'est un sujet compliqué, il n'a pas envoyé de communiqué ni évoqué de sujet politique à proprement parler en public. C'est une conversation privée qui a fuité, il faut le préciser. Conversation au sujet d'une mesure prise par Boris Johnson, dont nous avions parlé ici même il y a quelques mois. Pour les dissuader de traverser la Manche, le gouvernement britannique veut renvoyer les migrants illégaux vers le Rwanda, quel que soit leur pays d'origine. Une forme de sous-traitance.
From today, our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda.
Une idée qui avait choqué outre-Manche nombre d'associations jusqu'à l'autorité morale qu'est l'archevêque de Canterbury.
Even to a country that seeks to do well like Rwanda is the opposite of the nature of God, who himself took responsibility for our failures.
Et c'est à ce sujet donc une source du journal The Times affirme avoir entendu le prince Charles à plusieurs reprises se dire déçu par cette politique, alors je mets des guillemets, hein, déçu par cette politique, il aurait parlé d'une approche épouvantable et s'est dit consterné. Ce sont les propos qui ont été rapportés, ce qui vient percuter la neutralité de mise du côté de la famille royale.
UK prepares to send its first batch of migrants to Rwanda. The Prince of Wales has reportedly privately criticised the government's plan.
When it comes to the monarchy and opinions on politics or policy, they are expected to keep these to themselves. Now, in fairness to Prince Charles, these comments were allegedly said in a private conversation with someone that then leaks these comments to the press.
Prince Charles has privately criticised the new policy, calling it appalling.
We take Prince Charles more seriously on this. If he said, and by the way, I've opened up one of my many, many residences to five families of refugees crossing the channel, but he hasn't. Right. And he's got a lot of property.
Camille Schmitt a interrogé Jérôme Caron, journaliste au magazine Point de Vue. La reine ne prend jamais de position politique, la famille royale est neutre. Les propos du prince Charles sont d'autant plus surprenants.
Le prince Charles a beaucoup d'avis sur beaucoup de choses. En 2015, le Guardian a mis à jour, après plusieurs années d'enquête, un nombre incalculable de lettres que le prince Charles avait envoyées à divers cabinets ministériels. Ça avait été très mal perçu, puisque depuis le XVIIe siècle, la couronne britannique s'interdit de régenter le royaume. Mais il le représente, il en est le chef de l'État, mais il n'intervient pas dans les choix gouvernementaux. Là, il ne s'agit pas d'une lettre, il s'agit d'une conversation. Ce qui rend l'impact un peu moins fort, c'est qu'il a le droit d'avoir un avis. Logiquement, il doit éviter l'exprimer en public. Mais en termes privés, il peut se permettre de s'exprimer autant qu'il le désire.
Alors la communication officielle du prince Charles n'a pas démenti, mais rappelle que l'héritier du trône reste neutre politiquement. Après des mois de polémique et une inattendue prise de position privée, mais rendue publique du prince Charles, le premier vol en direction de Kigali, au Rwanda, doit décoller demain. 31 réfugiés seront à bord.
Gabriel Attal, je sais que vous n'êtes pas porte-parole de la couronne britannique, mais vous êtes d'accord, non plus, pas plus que celle du gouvernement, mais vous êtes d'accord avec le prince Charles, l'approche politique de Boris Johnson, cette sous-traitance des migrants, c'est une approche épouvantable, contestable.
D'abord, moi, juste par rapport au sujet, je ne vois pas le sujet, puisqu'effectivement, il n'a pas pris de position publique, le prince Charles, donc parle de on neutralité.
Oui,
c'est quand même bizarre, c'est à la fin, c'est plus le droit de penser, c'est... Enfin, je suis surpris quand même par ce débat que je découvre, puisque je n'avais pas vu ces propos rapportés. Pour le reste, du mal à comprendre certains choix qui sont faits, mais vous savez...
Outre-Manche.
Voilà, il y a eu des divergences importantes avec nos amis britanniques, et donc j'essaye de ne pas avoir de propos qui pourraient...
De mettre de l'huile sur le feu.
Voilà.
Je ne la pensais pas, moi.
Je suis comme le prince à ce niveau-là.
Merci. On avait le prince Charles ce soir sur le plateau de C'est à vous, on l'ignorait, il s'appelle Gabriel Attal.
J'ai dit à ce niveau-là.
Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des
longtemps.
Comptes publics. Merci de votre présence ce soir.
On va arriver au trône.
Merci Chloé Nabédian. La météo est-elle devenue folle, c'est le titre de votre livre.
Oui.
Et hélas, oui, on a la réponse depuis le temps, mais on recommande toujours chaleureusement ce livre aux éditions du Rocher. Merci, chère Chloé. Dans un instant, on marche, donc on pense. C'est la philosophie que nous conseille Roger Paul Droit. Il est notre invité dans un instant. À ses côtés, le journaliste Hervé Pochon, qui vient de boucler un pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il en a fait un podcast absolument formidable. Il nous en parle. À tout de suite pour le dîner de C'est à vous, l'œil de Pierre et les actualités de Bertrand Chamerois. On vous attend.